Vous êtes sur RTL.
Faire.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, bienvenue et bienvenue à la petite bande Emma Strack, Patrice Romden et Christophe Brun. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
bonjour Michel.
Le 17 octobre 1995, il s'est passé quelque chose d'important. Même dans l'histoire de France d'ailleurs.
Ouais. La Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud.
En 95?
Oui monsieur.
Ah oui.
Gagné par l'Afrique du Sud et Nelson Mandela remet donc la coupe. Et l'Afrique du Sud vit un virage sociologico-politico complètement.
Ce qui n'a aucun rapport avec l'histoire de France, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Et il faut voir à ce sujet le film Invictus.
Exactement.
Voilà, très bien.
On lui a pourri son sommaire.
Alors, pas du tout. Je voulais vous dire,
dire
que,
un truc, Michel
oui, que le 17 octobre 1995, Jeanne Calment le record connu inégalé de 120 années et 238 jours écoulés de longévité, de vie, devançant un Japonais mort en 1986 à officiellement 120 ans et 237 jour.
Savez-vous qui a fait 3 interviews de Jeanne Calment dans ce studio?
C'est pas moi, c'est
Patrice Romden. Ça peut bien être.
Merci beaucoup.
Ouais. Patrice Romden, et on va reparler longévité dans un instant, mais tout de suite le sommaire, Emma.
Allô, maman, bobo, on l'entend chaque semaine dans le générique de l'émission. Eh bien, aujourd'hui, on va en parler de ces bobos, de cette douleur qui peut empoisonner la vie, pour bien l'identifier, correctement la nommer, et bien sûr, l'apaiser pour se sentir bien.
Patrice.
Eh bien, ce matin, on parle de Jeanne-Antoinette Poisson. Ça vous dit quelque chose?
Ah oui.
Jeanne-Antoinette Poisson.
C'est pas la marquise de Pompadour?
Mais oui, Michel.
Ah, bah voilà.
Vous avez dit mes notes, c'est pas possible.
C'était la favorite de Louis XV, effectivement, la marquise de Pompadour. Elle avait la libido en berne, figurez-vous. On va faire quelque chose.
Ouais.
Coach Cricri.
Quelques mois suffiront.
J'en rêve encore de De Palma, c'est comme lui, on va parler d'effort aujourd'hui et de ce phénomène que vous avez déjà dû constater en faisant un effort inhabituel justement, vous vous mettez à trembler. Il y a une raison à ce tremblement musculaire, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure.
Même si je m'améliore.
Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux.
Alors je voudrais quand même vous dire un petit mot sur ce qui détermine notre longévité, mais juste pour vous donner une idée, voici quelques chiffres sur la durée de vie de quelques organes et sur l'évolution de l'espérance de vie depuis le début du 19e siècle, période où l'espérance de vie des Français était au plus bas. Vous savez combien elle était au début du 19e?
Je sais pas. Début 19e, 60, 50,
33 ans.
Oula, oui, d'accord. Oula.
33 ans au début du 19e.
C'était avant la pénicilline, c'est ça?
Non, vous allez voir, parce que de 1900 à 2000, l'espérance de vie en France, moyenne, hommes et femmes confondus, est passée de 48 à 79 ans, soit une hausse de 65% en un siècle seulement. Tout ça est dû aux avancées sanitaires, hein, bien sûr, mais aussi aux campagnes contre le tabac et l'alcool. Mmh. C'est ça qui a permis d'augmenter l'espérance de vie. Il y a eu aussi, bien sûr, la diminution de la pénibilité du travail, les congés payés, la diminution du temps de travail et puis l'accès à l'eau courante, à l'électricité et au chauffage. Et aujourd'hui, c'est quoi l'espérance de vie, les amis?
80 pour les femmes, 85...
Ah non, plus que ça.
Pas 80 pour les hommes, 85 pour les femmes.
Moi, je dis 76 pour les hommes et 82, 83 pour les femmes.
C'est Patrice qui a raison. 85,6 pour les femmes et 79 9,7 ans pour les hommes. En l'espace de 10 ans, les hommes ont gagné 2 ans d'espérance de vie et les femmes une année et 2. Oui.
Oui, je voudrais dire que s'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, c'est bien celle-là, n'est-ce pas, Emma?
Oui, c'était...
Vous vivez plus longtemps.
Ouais. Ouais.
C'était bien de le souligner, Patrice. Merci pour cette intervention.
Ça va faire des histoires.
Non, par contre, on peut noter que les progrès nous ont donné d'autres maladies, ont causé d'autres problèmes. On vit plus longtemps, mais...
pas forcément en bonne santé.
Voilà, voilà, l'espérance de vie en bonne santé, ça c'est le sujet le plus important. À l'occasion, Emma, de la Journée mondiale contre la douleur, on s'est rendu compte que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu et que la douleur, c'est même probablement tabou chez certains.
Comme si souffrir, comme si avoir mal, c'était un aveu de faiblesse. Alors je pense évidemment aux hommes. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette injonction à être fort et courageux face à la douleur. Mais je pense aussi aux femmes qui ont pu se sentir méprisées dans leur souffrance gynéco, aux enfants, aux personnes âgées dont on a longtemps sous-estimé le rapport à la douleur. En fait, je pense à tout le monde, quoi.
Très bien. Alors aujourd'hui, heureusement, on reconnaît que le soulagement de la douleur est un droit, hein, puis un droit fondamental. Reste à savoir de quoi on parle, parce que, en fait, il y a plusieurs types de douleurs.
Oui, trois pour faire simple. La douleur aiguë qui sonne comme un signal d'alarme, donc la coupure, la fracture, la crise d'appendicite. La deuxième, c'est la douleur liée aux soins. On vous fait une ponction lombaire, on vous pose une sonde, bon, bah, ça fait mal. Et puis la troisième, très répandue, c'est la douleur chronique, celle qui dure au-delà de 3 mois, 6 mois. Là, je vous parle de maux de tête, de migraines, lombalgie, d'arthrose, des douleurs musculo-squelettiques qui font mal physiquement, évidemment, mais qui ont aussi des répercussions psychologiques, insomnie, anxiété, repli sur soi, morale en berne et libido avec, par exemple.
Ah bah, la libido, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la douleur, quelle qu'elle soit, est anormale. Donc, il s'agit d'abord de poser le bon diagnostic pour savoir d'où elle vient et puis, bien sûr, de la traiter.
Et le chef d'orchestre, c'est le médecin, à commencer par le médecin traitant. Alors, ce qui rend la chose compliquée concernant la douleur, c'est qu'on ne peut pas l'objectiver avec des examens. Vous êtes la seule personne à la ressentir et donc la seule à pouvoir la décrire. Alors, ça vaut le coup de chercher la bonne métaphore. Est-ce que c'est une sensation de brûlure, un coup de poignard, est-ce que c'est une crampe? C'est pas facile non plus de l'évaluer. Est-ce qu'elle est pénible, atroce, insupportable? Ça dépend finalement pas mal des gens et de leur vocabulaire. Donc le mieux, c'est de dire où elle se situe sur une échelle de 0 à 10. 0, aucune douleur. 10, la pire imaginable. C'est encore ça ce qu'il y a de plus fiable. Et surtout, pas de honte, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire de courage ou d'être un bonhomme derrière tout ça.
Alors en parler au médecin, c'est important parce qu'il va surtout chercher l'origine de la douleur et vous proposer bien sûr des traitements adaptés. Mais si vous commencez par un peu d'automédication, bah voici quelques conseils.
Pour traiter une douleur passagère, on va se tourner vers les antalgiques. Alors, quand on se sert dans l'armoire à pharmacie, mieux vaut choisir le paracétamol à l'ibuprofène qui peut, comme l'ont souligné les autorités de santé, avoir tendance à masquer certains symptômes d'une infection et ainsi conduire à un retard de la prise en charge. Donc, on prend du paracétamol, mais surtout, surtout, on respecte bien la posologie. Pour un adulte sans avis médical particulier, c'est maximum 3 fois 1 gramme par 24 heures avec 4 à 6 heures d'intervalle entre chaque prise. Autre point de vigilance, attention de ne pas l'associer à un autre médicament qui contiendrait aussi du paracétamol. Donc il faut bien regarder la composition de ce qu'on prend.
Oui, il faut faire attention au risque de surdosage. Hein. C'est pas parce que le paracétamol est en vente libre qu'il est anodin. En l'occurrence, il peut entraîner des lésions graves du foie si on en prend trop. Donc on le prend à petite dose pendant quelques jours.
Oui, et pour les enfants, on ne joue pas aux apprentis sorciers en coupant un comprimé en deux. On choisit la formule adaptée à son poids en pharmacie. Et pour tout le monde, bien sûr, si la douleur persiste, on va consulter.
Voilà, et on parle de la douleur même quand on est un homme aussi fort que Coach Cricri. Vous avez une petite brève?
Oui, j'ai un mot, tiens. Voilà, je vous coupe la parole, Patrice. Je suis désolé, ça ne se fait pas. La calculie, qu'est-ce que c'est que la calculie?
Avec un A privatif.
Oui.
C'est incapable de calculer.
C'est quelqu'un qui ne sait pas calculer.
Bah on n'a pas de calcul.
Alors c'est... Non, c'est ça. C'est pas loin. C'est pathologie d'un patient qui ne parvient pas à se servir des chiffres et des nombres. Ouais. Voilà, qui ne peut pas faire des opérations, qui pour qui ça pose un problème.
Des chiffres et des nombres.
Non, j'étais dans les calculs rénaux, donc.
Si, parce que les chiffres, attention. Chiffres et nombres, c'est pas la même chose, Michel.
Attention. Donc la calculie, pour Patrice, c'est quelqu'un qui n'a pas de colique néphrétique.
Voilà. Ou alors, il a calculé l'opération et s'est trompé.
Voilà, aussi.
C'est trompé.
Voilà. Patrice, vous avez quelque chose
Oui, la mode des faux ongles. Un mot à dire là-dessus. Pourquoi pas, mesdames, mais pas avant l'âge de 16 ans. Parce qu'avant 16 ans, les ongles ne sont pas encore complètement matures. Et alors, si vous tenez à en porter, sachez qu'il ne faut pas le faire plus de 4 mois d'affilée et ensuite attendre un mois avant d'en remettre, évidemment.
Très bien.
Je sais que vous en mettez, Michel.
Oui, justement, j'allais vous dire... Vous...
Ça vous va comme un gant.
C'est beau. Emma qui se met à faire des jeux de mots. On se retrouve dans quelques instants avec Maître Capello, Patrice, qui va nous parler de la Pompadour.
Michel Simès sur RTL.
Ça va beaucoup mieux.
Riz de piscine.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Madame Pompadour, je suis amoureux. Je suis amoureux de vous. Il y a tant d'amour au fond de vos yeux. Donnez-moi un tout petit peu.
Madame Pompadour.
On découvre des chansons avec vous.
Gilbert Bécaud, mais il y a longtemps.
Clame haut et fort. Il clame haut et fort qu'il est amoureux de Madame Pompadour. Alors c'est à peine si on reconnaît sa voix. Il faut dire que c'est la voix d'un jeune homme. Le disque date de 1953. Ouais. Même moi, j'étais pas né. Bécaud avait 26 ans. Bon, alors on va parler de cette Pompadour. Il se dit, Patrice, que au lit, c'était pas vraiment ça.
C'est-à-dire qu'elle a 23 ans quand Louis XV la présente à la cour. Le roi lui a trouvé un petit appart, juste au-dessus du sien, dans le château de Versailles. Il lui suffit d'emprunter un escalier secret pour s'y rendre. Et sa majesté est charmée, mais pas forcément comblée. Il lui reproche à la Pompadour sa froideur. Il va même jusqu'à la traiter de macreuse.
Oui, je croyais que la macreuse, c'était de la viande qu'on mettait dans le pot-au-feu.
Non, mais c'est un mot, on a envie de dire macreuse. Qu'est-ce que c'est que macreuse ?
C'est un oiseau aquatique réputé à sang-froid. Alors autant vous dire que ça n'est pas un compliment, évidemment.
Alors on a bien compris que sexuellement, ça patine un peu et pas dans le bon sens. Jeanne Antoinette, devenue marquise de Pompadour, manque de tempérament, mais elle donne des gages de bonne volonté.
Oui, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'elle va remédier à tout ça par l'alimentation. Donc elle commence par se bourrer de céleri. C'est un aliment qui a une réputation tonifiante. Elle mange aussi pas mal de truffes et se gave de tasses de chocolat vanillé.
Pas mal, ça a l'air pas mal en tout cas. Ouais. Pourquoi du chocolat vanillé ?
Ne faites pas semblant de ne pas être au courant, Emma.
Oh, je tente.
À la cour, on dit que ce produit excite les ardeurs de Vénus, à tel point que, dès 1624, un théologien en a interdit la consommation dans les couvents au prétexte qu'il avait tendance, ce chocolat vanillé, à échauffer les esprits et les passions.
Alors le problème, c'est qu'à force de s'envoyer du chocolat, la Pompadour, elle s'arrondit quelque peu.
Oui, au point d'affoler son entourage qui l'exhorte en vain à penser un peu plus à sa ligne. Dans ses mémoires, la servante de la Pompadour témoigne de la détresse de la favorite qui, un jour, se confie à son amie, la duchesse de Brancasse. Ma chère amie, je suis troublée de la crainte de perdre le cœur du roi en cessant de lui être agréable.
Quand Hermes choisit, ces choses-là sont dites. Vous auriez dit comment, vous, coach Cricri ?
J'ai bien peur qu'il veuille plus de moi.
En tout cas, la marquise poursuit ses confidences à son amie. Elle lui dit la chose suivante. Les hommes mettent beaucoup de prix à certaines choses et j'ai le malheur d'être d'un tempérament très froid. Alors du coup, le roi prend ses distances. La marquise s'en rend compte. Et d'ailleurs, ça l'inquiète. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, dit-elle toujours à sa copine. Le roi, sous prétexte qu'il faisait chaud, s'est mis sur mon canapé et y a passé la moitié de la nuit. Il se dégoûtera de moi et en prendra une autre.
Et c'est sûr que si le roi boude le lit de sa favorite, ça finit mal en général.
Pourtant, je vous promets qu'elle fait de son mieux. Elle va même jusqu'à voir un charlatan qui lui refile des drogues supposées miraculeuses et elle finit même par avoir des éruptions cutanées. Tu vois.
En plus, elle a des boutons.
C'est plus possible avec les boutons. D'autant qu'à la cour, toute l'aristocratie lui en veut. C'est une intruse, une parvenue. Le roi finit par se séparer d'elle, mais il lui conserve son amitié. D'ailleurs, il lui fait un beau cadeau d'adieu. Il lui offre l'hôtel d'Evreux. Et vous savez ce que c'est l'hôtel d'Evreux ?
Moi je sais.
C'est l'actuel.
Palais de l'Elysée, ouais.
Et ouais, carrément. Un beau cadeau quand même.
Quelle culture. Ouais. Bon, on va quand même s'intéresser à ces problèmes de libido avec le docteur Gilbert Boujaoudé, notre sexologue référent. Bonjour Gilbert.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
Bonjour Gilbert.
Vous avez entendu l'histoire de Pompadour. Admettons que...
N'attendons pas, Michel. Patrice a une question.
Vous aviez une question.
Je voulais savoir si le céleri marche vraiment.
Moi, Gilbert, je n'ai pas de question. Michel, peut-être.
Alors, Gilbert, admettons qu'une auditrice ou qu'un auditeur s'aperçoive que la Pompadour correspond un peu au profil de sa compagne ou que la dame d'elle-même. Est-ce qu'il y a vraiment des choses aujourd'hui, d'abord pour diagnostiquer les raisons pour lesquelles la libido est en berne, et puis pour l'augmenter.
Oui, c'est clair que la libido, qu'elle soit chez l'homme ou chez la femme, c'est l'un des phénomènes les plus mystérieux encore à comprendre, que ce soit d'un point de vue psychologique, social ou biologique, neurologique. Pour vous donner une idée, on sait que quand la libido se met en marche chez la femme, il y a plus d'une douzaine d'hormones et de neurotransmetteurs qui se modifient et il y a 7 ou 8 zones du cerveau qui s'activent ou s'inhibent. Donc c'est quelque chose vraiment hyper complexe à comprendre. Mais pour le faire de façon très simple, par exemple pour Madame Pompadour ou quelqu'un qui se reconnaît dans son histoire, il y a des questions simples qu'on peut se poser et qui nous permettent d'y voir plus clair et d'avancer. Première question, c'est est-ce que je n'ai plus envie de sexe ? C'est-à-dire la sexualité ne m'intéresse pas seulement, ou est-ce que je n'ai plus envie de beaucoup de choses de type amusement, légèreté. J'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de m'amuser, j'ai plus envie de voir du monde, etc. Si la question, la réponse, pardon, est c'est que j'ai plus envie de rien, c'est que c'est pas la sexualité le problème, c'est que c'est il y a quelque chose de type, voilà, dépression, manque d'élan, etc. Deuxième question, c'est est-ce que j'ai envie, mais à des moments qui sont pas les bons moments. Par exemple, c'est quand je suis seul chez moi l'après-midi que je fais une sieste. C'est quand je suis dans une soirée, et puis quand on rentre, ça va pas. Ce qui montre d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que c'est les conditions, les circonstances dans lesquelles on est qui vont jouer. C'est quand on est reposé, détendu, quand on s'amuse, etc. Autre question à se poser, c'est est-ce que je n'ai plus envie depuis un événement particulier? Est-ce que c'est depuis que je me suis disputé avec quelqu'un dans ma famille? Est-ce que c'est depuis que on s'est pris la tête en couple par rapport à un problème qui n'est toujours pas résolu, etc. Et la dernière question que Madame Pompadour aurait dû se poser aussi, c'est est-ce que j'aurais aimé que la personne avec qui je suis change quelque chose dans son comportement pour que j'aie envie? Par exemple, tout à l'heure, elle disait, dans le récit de Pompadour, elle racontait la façon dont le roi se comportait. En gros, il venait vers elle et il attendait qu'elle lui offre les faveurs. Sauf que peut-être que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour elle, la libido. Et probablement que les autres femmes qui n'étaient pas considérées auprès du roi comme froide, je ne sais plus le nom de l'oiseau qui...
La macreuse.
Voilà. Probablement que les autres n'avaient pas plus envie que ça aussi, mais qu'elles se laissaient aller, elles se laissaient faire simplement pour ne pas perdre le roi.
Patrice.
Question sur l'alimentation. Oui. C'est de la fumisterie ou il y a quand même parfois des solutions à travers ça?
Oui. Alors, il faut se méfier un peu de ce qui se raconte à la hôtellerie. On n'a jamais eu de preuves, par exemple. Il y a en ce moment un produit qui circule un peu partout sur les réseaux à base de miel enrichi. Ce genre de choses, comme le chocolat vanille, etc., on a parfois plus de chances de choper le diabète que de retrouver la libido.
Dommage.
Alors, par contre, il y a quand même quelques aliments pour lesquels on a quelques débuts de preuves scientifiques que c'est utile, comme par exemple le chocolat, qui est connu, la chocolat noir, le girofle qui est connu pour ça. Puis il y a d'autres plantes comme le tribulus, le ginkgo biloba, etc. Alors ce qu'on ne sait pas de nos jours, c'est comment bien les utiliser. C'est-à-dire, prenons par exemple le chocolat, on ne sait pas dire comment il faut le prendre, à quelle dose, quelle concentration, etc. Comme un médicament. Si je vous dis par exemple le paracétamol, c'est un très bon médicament, mais je ne sais pas vraiment comment le prendre, quelle dose et à quel moment. Vous allez me dire, une fois que vous savez un peu plus, dites-le moi, quoi. Ben, c'est la même chose pour les plantes.
Christophe. Oui, donc, si je vous suis, docteur, vous dites qu'il faut être bien dans sa tête. Donc, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Est-ce que l'activité physique et le sport sont favorables à la libido
obsessionnelle?
J'allais terminer par ça.
Merci, docteur. Merci.
C'est la question la plus pertinente. En fait, c'est pour le sport qu'on a le plus de preuves scientifiques qu'il y a une amélioration de la fonction sexuelle. Et si vous voulez savoir quel sport surtout, c'est les sports de type pilates, yoga dynamique, piscine et sinon tous les autres sports.
Ouais. Magnifique.
Merci beaucoup Gilbert Boujaoudé, notre sexologue de référence. Merci, le pilate justement que pratique Emma.
Toute la journée.
Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Tout le week-end.
C'était une consultation en fait. Ouais. Ah, ok.
Entre le chocolat et le pilate, on est bon, Emma.
Je suis au top.
Merci Gilbert. Emma, un petit mot juste avant de...
Oui, vous savez ce que sont les Ig Nobel?
Oui,
c'est des prix de
Zig Nobel.
Pas loin, vous chauffez.
Ah oui, c'est les Nobel de la loose.
Sur des études scientifiques vraiment très sérieuses. Eh bien, l'édition 2021 a récemment décerné l'Ig Nobel de médecine à cette étude qui démontre que l'orgasme fait office d'excellent décongestionnant nasal. Donc, si vous avez le nez bouché, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
J'ai envie de faire l'amour.
Absolument. Bon, on se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 et la partie jeu.
Ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
Et je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good, avec le numéro qui est en kiosque actuellement, dans lequel vous verrez que nous avons 6 microbiote dans notre corps. On parle beaucoup du microbiote du tube digestif. Eh ben, on en a d'autres. On a le microbiote ORL, pulmonaire, vaginal, cutané, urinaire.
Vous avez un microbiote vaginal?
Oui, alors nous ne devons en avoir que 5, non, je pense. Alors finalement,
on en apprend tous les jours.
C'est incroyable.
Dans Dr Good cette semaine. Alors, nous allons jouer, les amis. C'est la partie jeu. Et nous allons jouer aujourd'hui avec Patrick. Bonjour.
Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
Bonjour Patrick.
Alors Patrick, bonjour. Vous vivez à Menucourt, dans le Vexin.
95.
J'en peux plus. 95, effectivement. Vous travaillez dans une cuisine centrale pour livrer des repas aux établissements de santé. Vous avez eu vous-même un gros problème de santé il y a 8 ans, c'est ça ?
Il y a 8 ans, tout à fait. Ouais,
vous avez fait ?
J'ai fait un gros infarctus.
D'accord. Et vous avez...
On m'a posé 5 stents.
5 stents. Ah, quand même. Ah oui, les stents, c'est les petits ressorts qu'on met dans les artères coronaires pour les déboucher. Et vous avez, ce jour-là, décidé d'arrêter de fumer.
Ah oui, radicalement.
Eh bien, c'est bien.
Direct.
Eh ben,
dans la mission.
Eh bien, c'est bien. Alors, Patrick, vous allez jouer pour un week-end... ça ne va pas être très très loin de chez vous, d'ailleurs. Un week-end à Reims, à la caserne Chanzy. Alors, ce n'est pas une caserne militaire.
J'ai fait mon armée il y a longtemps, certes, mais...
C'est voilà le super cadeau. On vous met chez les militaires pendant 3 jours. Voilà. C'est un hôtel autographe collection Marriott qui est situé en face de la cathédrale Notre-Dame, en plein cœur de la ville de Reims. Il y a spa, resto, terrasse. Enfin bref, vous allez passer un super week-end là-bas. Mais pour ça, Patrick, il va falloir répondre à l'énigme. Ce matin, nous nous intéressons aux animaux et ma question est extrêmement simple. Quel est le point commun entre d'une part la plupart des Français, d'autre part les chimpanzés, les guépards, les léopards et les loutres de rivière, pensionnaires du zoo Maryland de Baltimore aux États-Unis? Nous avons 3 versions, une seule est bonne. Emma.
Alors, le point commun, c'est la taille du pénis, pour une raison que j'ignore. Genre. Les responsables du zoo ont mesuré celui des animaux cités par Michel et ils ont constaté que ces animaux, pourtant tous différents, avaient la même longueur de pénis, soit 9 cm. Or, figurez-vous que c'est la taille moyenne du pénis des Français, 9,16 pour être précise. Alors, j'ai pas pris les mesures personnellement, mais je l'ai lu dans une revue d'urologie, mon cher Patrick.
On a perdu Emma, la longueur du zizi. Alors attendez, moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Le point commun entre nous, les hommes, et les femmes aussi d'ailleurs, et les chimpanzés, les guépards, les léopards et les loutres de rivière du zoo américain, c'est qu'ils ont été ou vont être vaccinés contre le Covid. Oui, vous avez bien entendu, le zoo a estimé que ces animaux étaient vulnérables face au virus. Ils ont donc droit, eux aussi, à leur picouze. Voilà.
Patrice.
Eh bien moi j'ai une version qui est un peu la synthèse de ce que vous venez d'entendre en écoutant Emma et Christophe. Ces animaux vont en effet être vaccinés contre le Covid, mais... la piqûre se fera dans le pénis. Eh oui. Il paraît que c'est plus efficace, en tout cas pour les animaux. Je vous le confirme.
Il faut bien savoir viser, parce que, à mon avis, vous ne pouvez pas le faire au corps à corps. C'est pas possible.
Je vois bien les équipes du ministère de la Santé au départ du Covid nous dire qu'il fallait nous faire vacciner dans le pénis, ça aurait été drôle.
Alors, mon cher Patrick,
ou pas.
Je sais pas, d'ailleurs.
Vous avez 3 versions, donc celle d'Emma, la longueur du zizi, celle de Christophe, la vaccination Covid, et celle de Patrice, donc une synthèse délicate des deux, le vaccin dans le zizi.
Ils n'ont pas l'air d'y croire, je ne comprends pas.
On va choisir Christophe.
Oui, bravo. Ah, mais qu'est-ce que c'est dur ce concours. Alors,
sur la longueur du pénis, on pouvait hésiter.
On
parle pas de concours sur la longueur du pénis. Attention.
Alors, Christophe,
ça
explication.
Ça nous a hanté dans nos jeunes années. Ça. Alors, les loutres, les chimpanzés, les guépards, les léopards vont en effet être vaccinés s'ils ne le sont pas déjà. L'annonce a été faite par le zoo qui précise qu'il ne veut pas prendre le risque de perdre ces animaux qui font la réputation du zoo de Baltimore. Donc, voilà.
Eh bien, mon cher Patrick, vous avez gagné ce week-end pour 2 à Reims, à la caserne.
Super.
Alors ça s'appelle la caserne Chanzy parce que c'est une ancienne caserne de pompiers. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, vous connaissez ?
Je connais de réputation. Ah. C'est un très beau cadeau.
Merci d'avoir participé, beaucoup. Patrick. Merci.
Merci.
Au revoir.
Ça va beaucoup mieux ? La Minute Numérique Santé.
Alors vous savez que nous répondons tous les dimanches à vos questions sur le numérique en santé dans l'optique de la mise en place de l'espace santé numérique que nous aurons tous à notre disposition à partir du 1er janvier prochain. D'ailleurs, ça s'appellera Mon Espace Santé. Aujourd'hui, on a une question de Fouad qui est familier de la téléconsultation pour lui et sa famille. Il est détenteur du dossier médical partagé, DMP, il prend ses rendez-vous en ligne et il se demande comment toutes ces données de santé qu'il échange et stocke sont protégées et sécurisées. C'est une grosse question que se posent les gens.
Exactement. Alors, autant que possible, si vous pouvez le faire, c'est pas toujours très agréable, mais essayez de lire attentivement les CGU, vous savez, les conditions générales d'utilisation des services numériques de santé que vous utilisez. Et n'hésitez pas à contacter l'entreprise ou l'organisme concerné si l'information qui est fournie n'est pas suffisamment claire pour vous. Ensuite, pour les services publics numériques de santé, votre DMP, donc le dossier médical partagé, Michel, l'État s'engage sur la sécurité de vos données de santé qui y sont stockées. C'est un véritable coffre-fort, c'est une garantie de l'État, je répète. La Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, est très attentive sur le sujet, vous imaginez. Un autre gage de sécurité, toutes vos informations médicales sont hébergées en France et vous pouvez décider à quel médecin vous donner accès à vos infos, quelles infos sont concernées, quand et sur quelle période, de quelle durée.
Et ce sera la même chose pour la messagerie de Mon Espace Santé ?
Exactement, tout à fait. Cette messagerie sera tout autant sécurisée. C'est un engagement, je le répète, de l'État, sous l'autorité de la CNIL. Vous pourrez échanger en toute sécurité avec vos médecins, ceux que vous aurez choisis. Et en termes de sécurité, c'est autre chose que les messageries perso, les SMS, autres WhatsApp, qui ne vous garantissent en rien la confidentialité nécessaire aux échanges médicaux. Avec la messagerie sécurisée, ce sera le cas. Voilà. Je vous répète, hein, vous pouvez retrouver ces informations sur oui-à-la-santé.fr, tout attaché en minuscules. Ce site qui vous montre comment est-ce que la e-santé et les nombreuses opportunités qu'elle offre vous permettent de prendre votre santé en main. Voilà.
Merci, coach Cricri. Patrice, une petite brève.
Oui, l'hyperhidrose, tout le monde sait ce que c'est.
Bah oui, transpiration excessive.
Ouais, voilà. Voilà. Et donc, il faut savoir choisir un déodorant. Alors, il y a les déodorants avec des sels d'aluminium, c'est efficace, mais on suspecte l'aluminium d'être impliqué dans le déclenchement de certains cancers du sein.
Et on en reparle beaucoup en ce moment. Ouais. Ouais.
Alors, un principe, hein, déjà, vérifier que le taux d'aluminium ne dépasse pas 0,6% par antitranspirant et ne pas les utiliser en cas de lésion de la peau aussi, hein, après un rasage par exemple. Et puis sinon, il y a les déos sans sels d'aluminium, alors parfois c'est un peu moins efficace, mais vous avez le choix, du coup, voilà.
Merci Monsieur Patrice, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec coach Cricri qui va nous parler des tremblements.
Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
Et la dernière partie de l'émission avec Christophe. Et aujourd'hui on va parler, Christophe, du tremblement musculaire à l'occasion d'un effort, c'est votre thème du jour.
Alors, je vous donne un exemple très parlant. Après un déjeuner de famille un poil arrosé, vous lancez un défi à tonton et vous lui proposez un bras de fer. La belle bêtise, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. En position, main encastrée dans celle du frère de maman ou de papa, en plein effort pour lui écraser le poignet sur une bougie allumée, oui, on aime bien les challenges dans la famille, vous vous mettez à trembler comme une feuille.
Alors, en général, on est en apnée, on devient tout rouge, on a les veines du front qui sont au bord de l'éclatement.
C'est ça. Et ce sont vos muscles qui, arrivant à un niveau de fatigue dû à cet effort intense, vont s'étirer et se contracter très rapidement, de manière instinctive. Ils vont alors surstimuler leur terminaison nerveuse, entraînant ces tremblements. Donc.
Mais ça peut, au-delà de tonton, ça peut arriver aussi aux sportifs entraînés de trembler comme ça, même les très très forts.
Je sens une petite pointe d'énervement dans votre question, Emma, non ?
Non.
Ouais, mais oui, ça vous énerve, Emma. Enfin, je crois, j'imaginais que ça vous énervait, mais je suis désolé, les tremblements musculaires arrivent aussi aux champions les plus entraînés. En fait, ce n'est pas le niveau sportif qui est central dans tout ça, c'est l'intensité de l'effort, et Dieu sait si les grands athlètes peuvent pousser très fort leur capacité, et donc se mettre en état de déclencher la fameuse trembolite, vous voyez.
Trembolite, vous dites?
Oui, enfin, je sais pas si...
Tremblement, c'est pas mal. Oui. Non, d'ailleurs, trembler, ça vient du latin populaire « tremulare ». Mmh. Hein, du latin classique tremulus et ensuite de tremere qui veut dire trembler.
Oui, avec... comme les trémolos aussi.
Il y a qu'un maître Capello.
Ouais, cette émission. Avec Patrice, en tous les cas, c'est pas comme avec Brassens.
Sans le latin, plus de mystère magique.
Alors, Patrice, vous connaissez le latin, mais est-ce que vous connaissez le body language?
Oui, le langage du corps, voilà. La lingua del cuerpo. Aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, vous êtes bien d'accord, Michel.
Le body language, c'est du enzophagne,
c'est
ça.
C'est vrai. Eh bien, le tremblement est une expression qu'utilise votre corps pour communiquer avec vous et vous dire « vas-y mollo, là je suis en vrac ». Voilà, la cause c'est que le manque de glycogène, l'énergie qui prend sa source dans le glucose que vous mangez et dans les fameux glucides que vous trouvez dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, mais aussi dans les fruits, voilà, ce stock n'est pas éternel. On parle d'ailleurs de consommation musculaire de glycogène. Et quand il n'y en a plus, vous pouvez entrer dans la phase de tremblement.
Donc la seule solution c'est de recharger avec une barre ou un gel énergétique ou même une boisson sucrée.
Hein. Et oui, et puis effectivement, pensez à boire. Vous savez, c'est essentiel de boire avant, pendant et après l'effort. Votre corps pourra ainsi recevoir les minéraux essentiels évacué au cours de l'effort, justement.
Alors, je résume. Hein, trembler pendant le sport est tout simplement la façon dont votre corps vous fait comprendre qu'il a besoin de récupérer, c'est ça, hein? Et à quel moment je sais que je dois vraiment stopper pour ne pas me blesser ou faire un malaise ou je ne sais quoi.
Alors ça, c'est un peu vous qui le sentez. Je dirais que ce sont vos capacités et le mental qui vous animent, qui vous feront sentir que là, raisonnablement, vous ne pouvez plus. Vous avez certainement en tête les arrivées des
l'étape du Tour de France en montagne. Les coureurs sont au bout de leur vie. Ils repoussent le moment de rupture à tel point que la ligne passée, ils s'allongent, demandent de l'air. Pour certains, ils sont au bord du malaise. C'est quelquefois spectaculaire, mais seraient-ils ces athlètes hors normes s'ils n'allaient pas aussi loin dans la souffrance?
Et c'est toute la beauté du sport, bien évidemment. Merci, coach Cricri, Emma.
Il paraît que porter un soutien-gorge augmente le risque de développer un cancer du sein. Et on m'a dit qu'il valait mieux manger cru que cuit. Et je peux encore ajouter ce post publié sur les réseaux sociaux dans lequel j'ai appris que la 5G et plus globalement l'usage du téléphone portable pouvait causer des cancers. Vous avez remarqué ?
La 5G, c'est celle qu'on vous injecte avec le vaccin
voilà.
Covid.
Ouais. Il paraît que on m'a dit, j'ai lu un post, voilà, c'est des informations largement erronées qui circulent beaucoup. Ça manque beaucoup, beaucoup de nuances, notamment pour le téléphone et le manger cru. Et du coup, c'est en fait de la désinformation. C'est un peu le drame de l'époque, hein, l'info à peu près qui n'en est pas une et qui raconte plutôt nos peurs. Et pour faire le tri, pour revenir à la connaissance éclairée, je vous conseille le livre intitulé Fake News Santé, publié au Cherche Midi, rédigé par l'INSERM et préfacé par un certain Michel.
Oui.
Voilà, je sais, j'ai l'air de failloter, mais c'est un combat que je partage en tant que journaliste pour une connaissance éclairée.
Écoutez, je l'ai entre les mains et je lis que pour l'arthrose, l'effet placebo est majeur, figurez-vous. En moyenne, 75% de réduction de la douleur dans le traitement de l'arthrose sont attribuables à l'effet placebo, un pourcentage qui varie entre 47 et 91% selon les traitements.
Voilà, ce qui explique aussi le succès de certains traitements qui, scientifiquement, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, mais qui sembleraient être efficaces du fait de l'effet placebo qui, on le rappelle, fait partie de la médecine.
Oui. Tout à fait.
Christophe.
On parlait de la douleur tout à l'heure. Vous savez ce que c'est que le Niflugel, hein, c'est le pommade qu'on met. Et c'est une dame qui va chez le docteur.
Un anti-inflammatoire.
Voilà. Et qui dit au docteur, donc elle s'est trompée, la dame. Elle dit, docteur, mettez-moi de l'antigel pour mon limbago. Voilà.
Ça dépend où on le place. Voilà. Patrice.
Non, rien.
Non, rien. Très bien. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on va finir l'émission puisque vous n'êtes pas capable de nous parler. Très bien, on se verra après l'émission, Patrice. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous êtes fidèles tous les dimanches à 9h15 sur RTL. Et bien sûr, comme d'habitude,
c'est souvent de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson.
Guy Marchand, c'est si bon. Ouais, n'oubliez pas, la vie, ça peut être aussi très bon. Merci Emma, merci Christophe, merci Patrice. Et on se retrouve la semaine prochaine à 9h15. Passez une super semaine. Ciao.
Au revoir. Bon dimanche à tous.
C'est parce que c'est si bon. RTL, ça va beaucoup mieux.
C'est parce que c'est si bon.
Avec Michel Simon.